Nous allons voir un sujet un petit peu particulier ce matin au travers de ces images, ces paraboles, ces histoires que le Seigneur raconte, qui en fait sont des soutiens à son enseignement, au travers de ces, on pourrait dire, de ces faits divers. Jésus veut nous parler de réalités beaucoup plus grandes, plus profondes. Il nous parle de l'éternité, il nous parle du salut, il nous parle de ce qu'il a fait pour nous. Il nous met souvent en garde, il nous montre aussi parfois les failles, les erreurs de nos vies, non pas pour nous condamner, mais pour qu'on rectifie le tir et qu'on essaye de vivre selon sa parole. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, c'est intitulé « Plus fort que l'homme fort et bien armé ». Plus fort que fort. Voilà, c'est ce que le Seigneur, c'est ce dont il nous parle. Ce matin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 14, jusqu'au verset 28. Ça commence par une délivrance. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Voyez-vous, il n'y en a jamais assez. Hein. Quand on n'est pas de bonne disposition, Dieu peut faire tout ce qu'il pourra pour nous, on n'en aura jamais assez. Il faudra qu'il en fasse encore plus. Il faudra qu'il nous donne encore des preuves supplémentaires. Alors, il faut qu'on sache aussi reconnaître ce que le Seigneur fait et ce qu'il donne. Et comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, alors vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Si vraiment c'est le Seigneur qui agit, alors ça nous engage. Dieu est venu vers nous pour nous sauver. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'y a pas de neutre hein, dans les choses de Dieu. Et avec Jésus, on ne peut pas dire « Oh, moi je ne me mouille pas. Je suis ni pour ni contre. » Le Seigneur nous dit que là, si on n'est pas avec lui, quelque part, on est contre lui. Même si on n'y a jamais pensé. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouve point. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Mais quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. » Et on veut laisser cette parole s'inscrire en nous. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà, alors c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin, au travers de ces choses qui peuvent nous paraître étonnantes. Suivant les cultures d'où nous venons, nous pouvons être plus ou moins habitués à ce genre de choses. Dans la société d'ici, d'aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que les choses spirituelles mauvaises, les esprits, les démons, même les anges, voire même Dieu, tout cela c'est du folklore, c'est des histoires, et que tout cela c'est dans l'imagination populaire, et on ramène souvent tous les problèmes, toutes les difficultés simplement à des problèmes psychologiques. Et aujourd'hui, quand on a dit que c'était psychologique, on a tout dit. On règle rien, mais on a tout dit. Il est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes psychologiques qui sont engendrés souvent aussi par notre façon d'être et de vivre, par nos relations dans la famille, par nos conflits, par nos problèmes, c'est vrai. C'est donc, ça commence par une histoire un petit peu étonnante. D'abord, Jésus chasse un démon. Alors, la Bible parle des démons. Parle des esprits méchants, des esprits mauvais. C'est des choses qui existent. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Jésus en parle comme une réalité. Certes invisible, mais qui ont des manifestations visibles. Alors, peut-être certains peuvent être incrédules. Parfois, d'autres sont à l'opposé et vont considérer que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est certainement un démon qui est en train d'agir dans leur vie, ou voire de les faire souffrir. Et c'est là aussi où parfois on est très influencé par la culture dont on vient. Je crois que c'est intéressant et c'est important de revenir à ce que Dieu dit dans ce domaine et à ce que la Bible dit dans ce domaine. Parce que nous pouvons dériver facilement d'un côté, d'un extrême, comme dans un autre. La Bible est très sobre dans ses explications. Il n'y a pas d'explication ni sur l'origine, ni sur le pourquoi. Vous savez, nous, on est souvent très intéressés par pourquoi. Pourquoi on est malade, pourquoi on souffre, pourquoi on a une famille comme ça, pourquoi on a des difficultés, pourquoi. Très intéressé par ça. Et on n'a pas toujours des réponses. Et quand je dis toujours, peut-être je devrais dire pas très souvent des réponses. Il y a des choses qui sont assez énigmatiques. La Bible nous lève un coin du voile sur le monde spirituel, sur le monde invisible, mais ne nous donne pas grandes explications. La Bible parle des démons, elle parle du diable, mais ne nous dit pas pourquoi, qui, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. On peut y trouver, au travers de certains passages, quelques allusions, mais on n'a pas d'explication franche comme on aimerait, nous, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, vous savez, premièrement, deuxièmement, petit A, petit B, etc., etc. On n'a pas ça. Mais, dès qu'on ouvre la Bible, il y a Dieu, le Créateur, mais il y a aussi la présence d'un être malfaisant qui va entraîner derrière lui la création, à sa suite, dans la révolte contre Dieu. Et lorsque Jésus va être sur terre, en train de prêcher l'évangile, souvent, très souvent, il y a des réactions très fortes, des réactions qui semblent même un peu bizarres, où des gens vont se mettre à crier, vont parfois tomber, se rouler par terre, manifester une opposition, dire des choses contre le Seigneur. Et puis on voit que Jésus va chasser ces démons, chasser ces esprits, et donner à ces personnes qui étaient tourmentées, qui étaient dans la détresse, de retrouver leur calme et leur paix. Ici, il est question de quelqu'un qui était muet. Et le Seigneur donne l'origine de sa maladie comme une origine spirituelle. Moi, je crois qu'il faut que nous fassions très attention parce que dans la Bible, lorsque la Bible parle d'une maladie, elle ne fait pas toujours la relation avec quelque chose qui est d'ordre spirituel, démoniaque. Toute maladie n'est pas forcément le résultat de la présence d'un mauvais esprit. Il y a des maladies qui sont des maladies organiques, naturelles, on pourrait dire. Et puis il y a des maladies ou des problèmes qui sont d'origine, qui sont d'une autre origine, d'une origine spirituelle. Et la Bible est très claire à ce sujet. Elle ne fait pas de confusion. Elle ne dit pas que tout est démoniaque, comme elle ne dit pas non plus que tout est forcément naturel et qu'il n'y a rien qui se passe dans le monde de l'invisible. Il y a là un équilibre auquel nous ferions bien de prêter attention et de faire très attention. Parce que vous rencontrerez des chrétiens qui verront partout des démons. Dès qu'il y a quelque chose qui leur gratte le nez ou les oreilles, c'est certainement un esprit méchant et mauvais. Et parfois, des gens vivent dans le trouble, dans la peur, dans la crainte. Alors que, si nous sommes en Jésus-Christ, au contraire, on doit vivre dans la paix.
Amen.
S'il y a quelque chose dont le Seigneur nous a bien délivrés, c'est bien de ça. La Bible dit, nous sommes passés de la mort à la vie, mais nous sommes passés aussi du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, à celui de Dieu et à celui de la lumière. Gloire au Seigneur. Heureusement qu'on a cette espérance. Mais si je crois continuellement que, en fin de compte, il va y avoir quelques esprits malfaisants qui vont venir la nuit me tirer le bout des pieds ou me tourmenter, je vis dans la crainte. Et je vis dans cette crainte qui, malheureusement, est parfois dans les sociétés dont plusieurs viennent. Et parfois, certains ont été baignés depuis qu'ils sont tout petits dans ces choses-là. Et ça a imprégné leur esprit, leur façon de penser. Et je crois qu'on a besoin de se remettre devant la parole de Dieu. Je crois que c'est ce matin ce que nous allons voir ensemble. S'il y a un homme fort qui tourmente, il y a un homme plus fort qui prend le dessus par la grâce de Dieu. Amen. C'est ça le message de l'Évangile. Et si on reste continuellement comme les païens sous cette domination de la peur, de la crainte et des choses qui nous tourmentent, alors je crois que quel intérêt de se mettre du côté du Seigneur. Christ nous a délivrés de ce monde des ténèbres. Gloire à Dieu. Et il faut rester ferme sur ces choses-là. Béni soit notre Dieu. Amen. Alors, il y a un monde spirituel hostile. Et la Bible en parle tout à fait librement, d'ailleurs. L'apôtre Paul en a parlé. Éphésiens, chapitre 6, 10 à 18, il parle aux chrétiens, donc d'Éphèse, qui, eux, vivaient aussi dans une culture, dans une époque où il y avait beaucoup de magie, beaucoup de gens qui trafiquaient avec les ténèbres, il y avait de l'idolâtrie, il y avait différents dieux, différentes déesses, et il y avait toutes ces choses-là dans les cultes païens. On se livrait à des choses qui étaient des choses puissantes, mais malfaisantes. Et des gens étaient aussi sous l'emprise de ces ténèbres. Alors, voici ce qu'il écrit aux chrétiens. Et il leur écrit comme à des gens qui ont la capacité non seulement de résister, mais même plus de vaincre, de gagner par la grâce de Dieu. Éphésiens 6, verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Je note d'abord que la première des choses contre laquelle nous avons à faire attention et à lutter, c'est pas tellement le diable lui-même, c'est ses ruses, c'est-à-dire ses tromperies, sa façon d'être, de parler, d'envisager les choses, hein, c'est ses ruses. car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire en fait ce qui est humain, mais contre des dominations. Et les dominations, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles dominent, hein. Vous voulez qu'elles fassent d'autres. Contre des autorités, c'est-à-dire en fait des êtres spirituels qui prennent autorité, qui cherchent à diriger, à conduire. C'est ça une autorité. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est clair. Mais qu'est-ce que dit Paul ? Il dit, c'est pourquoi prenez les armes de Dieu. On n'est pas démunis devant ces choses-là. On n'est pas là à s'enfermer dans les placards en disant, bouh, vu qu'il ne m'arrive pas quelque chose. Non, non, on n'est pas démunis, on a des armes. Dieu nous donne les moyens, non seulement de nous défendre, mais encore plus de gagner. Gloire à Dieu. Et ce matin, je voudrais vous encourager à ne pas vivre dans la crainte, mais au contraire, à considérer que nous avons un Seigneur puissant et capable. Gloire à Dieu. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, qu'est-ce que c'est les armes de Dieu ? Quelle est l'armure ? Eh bien, c'est en fin de compte des choses qu'on a si on est chrétien. C'est pas des choses. On n'a pas besoin d'aller à l'armurerie du coin, ou je sais pas, de grimper sur quelques montagnes ou aller au. Je sais pas où pour essayer d'avoir des armes. En plus, on les a ! Le tout, c'est de s'en servir. Parce que vous savez tous qu'on peut avoir les meilleurs outils, mais s'ils restent dans les tiroirs, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Et c'est la même chose avec les choses de Dieu. Hein. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Ça commence par la vérité. Pourquoi ? Pourquoi la vérité est si importante ? Oui, c'est la parole de Dieu, la vérité. Mais pourquoi ? Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Oui. S'il y a une chose dont on doit avoir peur, c'est du mensonge. S'il y a une chose contre laquelle il faut se garder, c'est le mensonge. Parce que quand on est sur un terrain de mensonge, il y en a un qui se frotte les mains. Hein. Mais il ne supporte pas la vérité, la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Quand la Bible dit qu'on est des enfants de lumière, qu'est-ce que ça veut dire ? On est transparent. On ne vit pas dans le mensonge. D'accord ? Il n'y a pas des petits mensonges. Il n'y a pas... vous savez, on ne peut pas découper les péchés en disant « tu péchais, grand-chose ». Le diable, c'est le père du mensonge. Et vous savez, quand vous regardez les premières pages de la Bible, comment il a menti à nos premiers parents, c'était très subtil. Hein. On pourrait dire c'est un petit mensonge, c'est pas grand-chose. Hein. Mais quelle catastrophe, hein. Quelle catastrophe. À vos reins, la vérité pour ceinture. C'est la première chose. Revêtez la cuirasse de la justice. C'est quoi la justice de Dieu ? Hein ? Oui, mais c'est plus que ça. Comment le Seigneur nous a rendus justes ? Eh bien oui, parce que le Seigneur nous a purifiés de nos péchés. Il nous a justifiés. Revêtir la cuirasse de la justice, c'est être convaincu que depuis que nous sommes au Seigneur, nous sommes justes. On n'est pas juste parce qu'on est meilleur que les autres. Hein. On est juste parce que Dieu nous rend justes par son sang précieux, par le sang précieux de Jésus. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez à vos chaussures, à vos pieds, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous voyez ? C'est pas « je traîne les pieds dans les choses de Dieu ». Faut encore y aller. Bon, bah oui, on va aller faire son devoir religieux. Ah, si on fait ça, je veux dire, là encore, il y en a un qui va se frotter les mains, parce que si on n'a pas cette vivacité de cœur pour le Seigneur, vous savez, Vous avez regardé un peu ces reportages sur le monde animalier, en général, hein, les lions, les loups et compagnie, qu'est-ce qu'ils visent? Hein? Ceux qui traînent. Non? Bah oui, parce qu'ils vont pas s'attaquer à celui qui court vite, et ils vont pas, même si parfois ils sont vaillants et qu'ils courent bien, mais bon, ils se disent, celui qui court vite, eh ben, qui court vite, on va attraper celui qui court moins vite. Ben oui. Vous voyez, les choses de Dieu, ça se fait pas comme ça, en traînant les pieds. Les choses de Dieu, c'est important qu'on le fasse avec cœur, avec zèle. Le zèle que donne l'Évangile. Est-ce que tu as du zèle pour le Seigneur? Est-ce que ça t'intéresse? T'es prêt à, j'allais dire, à bondir? Voilà, c'est ça que le Seigneur nous montre dans sa parole. Le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi, c'est un bouclier. Mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas qu'un bouclier. On ne va pas passer son temps sous le bouclier, et puis on s'est enfermé sous un bouclier, et puis on ne regarde même pas au-dessus, parce que... Alors, bouclier, ça sert, mais ça sert à se protéger des traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut. Le salut, on l'a. L'épée de l'esprit, on l'a. C'est la parole de Dieu. Et avec tout ça, eh bien, on est vainqueur. Gloire à Dieu, sur ce monde hostile des ténèbres. On est vainqueur parce qu'on a toutes les armes à notre disposition. On n'est pas démunis. On n'est pas des victimes. Béni soit le Seigneur. On a la grâce que le Seigneur nous a donnée en Jésus-Christ. Amen. Alors, ce monde spirituel hostile, on l'a vu, est à l'origine de certaines souffrances physiques, psychologiques. Mais, je le répète, pas forcément quand on souffre d'une maladie, ou même parfois d'un désordre psychologique, c'est pas forcément, et on ne doit pas forcément y voir une action d'un démon, et je crois qu'on a besoin d'avoir cet équilibre justement, parce que le Seigneur est capable d'agir, de guérir et de faire grâce. Mais nous voyons aussi que ce monde hostile, spirituel, nécessite une action de force pour s'en débarrasser. Et en fin de compte, Jésus va parler de cet homme fort qui s'est installé dans sa propriété quelque part, hein, et qui est bien armé, et qu'on ne va pas déloger comme ça facilement. Et comment est-ce qu'il va être délogé? Simplement parce que quelqu'un va être plus fort. Et va pouvoir s'emparer de ce qu'il a, de ce qu'il est. Alors, on peut lire cette parabole, on pourrait dire, hein, cette image, de différentes façons. Cet homme fort qui a pris possession de sa maison, ça peut être aussi chacun d'entre nous, on a l'impression d'être en sécurité. Mais attention, parce que ça, c'est une fausse sécurité. Nous pouvons... très bien, et même le plus fort d'entre nous, même le mieux armé, même le plus intelligent et le plus brillant, peut être aussi victime de ce monde spirituel hostile qui peut le conduire dans des choses difficiles, douloureuses, catastrophiques. Vous savez, l'orgueil, c'est de croire que rien ne nous atteindra. Les accidents, c'est les autres. Les problèmes, c'est les autres. Il y a qu'à, faut que, ils ont qu'à. Terminé. Ça, c'est les autres. Moi, je suis au-dessus du lot, au-dessus du panier. Si j'ai cette vision-là, je crois que je vais me tromper lourdement. Et le jour où, malheureusement, quelque chose arrive, on se retrouve complètement déboussolé parce que on n'a jamais pensé que c'était possible. Que ça nous arrive. Je crois que la Bible nous invite à beaucoup d'humilité et à considérer que nous ne sommes pas les maîtres de nous-mêmes, mais que nous avons besoin d'avoir quelqu'un de plus fort avec nous dans notre vie. parce que sinon nous risquons de ne pas tenir la distance et de ne pas être capable de résister. Quand il dit résister au diable, il fuira loin de vous. Moi, ça, à la fois, ça me réjouit, parce que je me dis, n'importe quel chrétien de base, dès qu'on devient un enfant du Seigneur, dès qu'on devient chrétien, on a la possibilité de résister à cet ennemi puissant. N'importe lequel. Résistez-lui avec une foi ferme. Et il va fuir, dit la Bible. Formidable, ça, non? Mais ça montre aussi qu'il y a une résistance. Il y a un rapport de force. Et que ce rapport de force peut aussi faire que si on n'est pas armé, si on n'a pas pris la force que le Seigneur nous a donnée, sa grâce, on risque de se faire manger, on risque de se faire détruire. Et c'est ça aussi que ça veut dire. Maintenant, on peut voir aussi dans cet homme fort et bien armé, et dans le cadre justement de cette histoire, qui est dans un cadre particulier, puisque Jésus a chassé un mauvais esprit qui s'était emparé de quelqu'un. Et il n'y a pas d'explication à la chose. Pourquoi cet esprit s'est emparé? Alors je sais qu'il y en a qui vont aller chercher dans les ancêtres, savoir s'il n'y en a pas un qui a fait un truc qu'il ne fallait pas. Vous savez, je crois qu'on a tous des ancêtres qui ont fait des trucs qu'il ne fallait pas. Vous savez, des ancêtres qui ont toujours marché bien droit, faut les chercher quand même. Hein. Si vous faites votre arbre généalogique, je pense que vous n'allez pas en trouver beaucoup. Hein. Oh, je crois qu'on n'a pas besoin de vraiment se casser la tête avec ce genre de choses. Mais parfois aussi, ça augmente la détresse, la souffrance, parce qu'on vit dans l'incertitude. Ah, pourvu que j'ai pas eu quelqu'un qui a trafiqué avec le diable. Peut-être, peut-être pas. Mais vous savez, je crois que tous, malheureusement, on a dans nos familles, on a dans nos amis, on a dans ceux qui nous ont précédés, des gens qui ont pactisé avec le malin, ont fait des trucs qui n'étaient pas clairs, et ils ne sont pas sans reproche. Parce que moi, je crois dans le rachat du Seigneur. Je crois que Jésus, par son sang précieux, nous a rachetés de la malédiction. Si je ne crois pas à ça, je suis fichu. Je suis perdu. Je vais me laisser gagner par les ruses du malin qui va me dire « Oui, mais tu sais, oui, oui, il dit ça, mais en fin de compte, hein, je te tiens bien et je te lâcherai pas. » C'est là où il faut que nous soyons assurés que ce que le Seigneur a fait sur la croix nous délivre et nous libère. C'est un rapport de force, mes amis. Et notre force, c'est quoi ? Nos muscles, notre intelligence, nos capacités humaines, non. La Bible dit que c'est notre foi. C'est de croire dans ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix. Béni soit le Seigneur. Regardez ce que l'apôtre Jean écrit aux chrétiens. Dans la première épître de Jean, non pas dans l'évangile, hein, mais la première épître de Jean, au chapitre 2, et bien sûr, il va prendre aussi des images qui sont assez courantes dans le langage des apôtres et de la Bible. Je vous écris, petits enfants, et on peut y voir ici ceux qui viennent de naître à la vie spirituelle. Pas, il ne parle pas aux enfants physiquement des enfants, il parle à ceux qui sont nouvellement croyants, nouvellement chrétiens. Et il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Alléluia. Ça, c'est la première base. C'est, je dirais, la première base de la première base de la forteresse et des armes. Je dois croire que mes péchés sont pardonnés. Si je n'arrive pas à croire que le Seigneur a pardonné tous mes péchés, peut-être qu'il en a encore un dans un coin qui traîne, on ne sait pas. Ou je crois qu'il a tout pardonné, ou je ne crois pas du tout, je ne peux pas être au milieu. Hein. Je crois que le Seigneur a pardonné mes péchés. Amen. Je crois qu'il a pardonné mes péchés. Ça ne veut pas dire que je dois continuer à vivre dans ces péchés. Bien sûr que non. Mais il a pardonné nos péchés par son sang précieux, par sa mort sur la croix. Amen. Je vous écris, Père. Alors là, des gens qui déjà ont un petit peu plus d'ancienneté dans la vie chrétienne, qui sont plus établis. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Puis entre les pères et les petits-enfants, il y a les jeunes gens, pleins de fougue, mais peut-être un petit peu encore immatures, un peu tout fou, un peu peut-être plein d'allant, mais peut-être manquant un peu de connaissances et d'expérience. Hein. Mais il leur dit quand même, parce que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Ne parle pas comme si c'était des gens qui étaient dominés, comme si c'était des gens qui étaient sans défense. Moi, il dit, vous les avez vaincus. Vous avez vaincu ce malin. Et on sait que le malin, c'est un des multiples noms que la Bible donne au diable. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Alléluia. Vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont forts. Et que vous avez vaincu le malin. Béni soit le Seigneur. Est-ce que vous êtes assurés, mes frères et sœurs, que vous avez vaincu le malin? Pas seulement que Jésus l'a vaincu, mais que vous, vous l'avez vaincu. Parce que vous appartenez à Jésus. Parce que vous avez rompu avec lui. Ah, évidemment, si vous n'avez pas rompu avec lui, ça pose problème, hein? Et vous avez vaincu le malin. Béni soit le Seigneur. Vous voyez, la Bible ne parle pas de trucs pas clairs. C'est on est avec le Seigneur ou on n'y est pas. Un monde hostile, un monde spirituel hostile, à l'origine de certaines maladies qui nécessitent une action forte pour être délivré. Mais c'est aussi ce monde qui est hostile. C'est aussi un monde qui ne lâche pas facilement prise. Hein. Et tous ceux qui ont eu affaire à des gens qui avaient besoin d'une délivrance le savent. Je crois que nous avons besoin de veiller tout particulièrement. Parce que, qu'est-ce que Jésus dit? C'est un peu mystérieux. Vous savez, quand un esprit a été chassé de quelqu'un, il s'en va dans les lieux arides. Et puis, bien sûr, il regrette. Là, il y a une espèce de tandem là, qui est assez bizarre, assez étonnant, assez énigmatique. Pas d'explication non plus. Mais, en fait, cet esprit considère un peu cette personne comme sa maison, son habitation. Et parce qu'il a été chassé, il dit, mais je vais revenir. Mais on voit bien qu'il y a une espèce de rapport de force, parce qu'il se dit, je ne peux pas y aller tout seul, j'ai été vaincu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des amis. Hein, il va chercher du renfort. Il va prendre des esprits plus méchants encore que lui. Vous voyez, dans la Bible, il y a aussi des degrés, des hiérarchies. On l'a vu aussi dans Éphésiens. Et il dit, ces mauvais esprits vont revenir en force dans cette maison. Et puis, il la trouve balayée et ornée. Il y a eu le ménage, de fait. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Parce que la maison, elle n'est pas habitée. Elle est vide. Et vous savez, il y a plein de gens comme ça qui ont été délivrés par le Seigneur, qui ont été bénis par Dieu. Mais après avoir dit merci, ils sont retournés à leurs affaires et ne se sont pas préoccupés davantage de ce que Dieu avait fait pour eux. Alors le Seigneur va dire quand même quelque chose de terrible. Il dit, quand ces mauvais esprits reviennent, la condition de cette personne est encore pire qu'avant. Moi, ça me fait dire qu'on ne joue pas avec la grâce de Dieu. Qu'il faut se maintenir dans la grâce de Dieu. Et que la meilleure garantie et la meilleure manière d'être protégé, c'est pas de mettre du sel sous son lit, ou quelques porte-bonheur, ou quelques objets pieux bénis par je ne sais quel archevêque. Non, la meilleure garantie, c'est que le Seigneur habite notre vie. Parce que s'il ne l'habite pas, je pense qu'il y a du souci à se faire. Mes amis, nous avons besoin de celui qui est plus fort. Et Christ, par sa mort sur la croix, a vaincu. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Béni soit le Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez avoir plus fort? C'est lui qui est le plus fort. Mais une chose qui nous est montrée dans la Bible, c'est que d'abord les démons sont obstinés, ne lâchent pas facilement, que le diable ne lâche pas facilement ses proies, et que nous avons besoin de combattre. C'est pourquoi, d'ailleurs, entre parenthèses, le Seigneur parle du jeûne et de la prière. Et notamment, il dira que cette sorte de mauvais esprits, de démons, ne sort que par le jeûne et la prière. Parce que c'est pas si simple que ça. Que le Seigneur nous aide et qu'on comprenne à quel point c'est important que Jésus prenne toute la place. Il y a un petit chant qu'on chantait autrefois avec les enfants dans ce qu'on appelait les écoles du dimanche. Mais quand il disait que si Jésus est dans notre cœur, quand le diable frappe à la porte, alors on envoie Jésus répondre. Et je trouve que c'est une bonne image, hein ? Parce qu'évidemment, si c'est Jésus qui répond, celui qui frappe là à la porte, il va dégager rapidement, hein ? Dans cette histoire aussi, il n'y a pas que, j'allais dire, ce monde hostile qui est en direct, il prend possession de quelqu'un, le rend malade ou le détruit. Mais on voit aussi que ce monde hostile va amener une confusion, j'ai appelé une confusion diabolique, entre les choses de Dieu et les choses du diable. Puisque c'est religieux, et c'est là peut-être le plus étonnant, c'est que ce monde religieux, qui normalement est chargé de guider les gens dans la vérité, eh bien, sont aussi dans les ténèbres que les autres. Et ils vont dire, mais c'est pas étonnant qu'il chasse les démons, il le fait par le doigt de Belzébul. Entre parenthèses, c'est un mot qui veut dire le maître de la maison. Vous voyez, on retrouve ça, hein. C'est par le diable qu'il chasse le diable. Et Jésus dit, mais soyez un peu logique quand même. Si le diable chasse le diable, il est divisé contre lui-même. Ça n'a pas de sens. Mais si c'est par le doigt de Dieu, alors ça veut dire que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Béni soit le Seigneur. Il y a une confusion totale. Et vous savez, dans les choses spirituelles, il y a des confusions terribles. On finit par faire un amalgame. J'ai rencontré des gens qui prenaient les choses spirites, les sorciers, les marabouts, les gens qui trafiquent avec le diable, comme s'ils venaient de la part de Dieu. Et on va aller leur demander de l'aide. Comme si on allait demander de l'aide au Seigneur. Quelle confusion, mes amis! Et sans se rendre compte, ces gens se mettent sous une domination qui va les détruire. Parce que vous savez, si vous demandez un coup de main au diable, on peut au moins être assuré d'une chose, c'est que le genre de coup de main qu'il va nous donner va se retourner contre nous. Parce que c'est pas un ami qui nous veut du bien. Hein. Quelle confusion! Et dans le monde dans lequel nous vivons, quelle confusion! Orléans, nous avions une personne qui trafique avec le diable et qui disait l'avenir aux uns et aux autres. Et les gens défilaient chez elle pour la consulter et pour trouver du soulagement dans leurs problèmes. Mais cette personne était tellement tourmentée qu'un jour elle est venue à l'église, tourmentée! Les gens venaient comme s'ils allaient consulter Dieu, mais cette personne était dans un tourment terrible. Ah oui. Et puis il y avait une telle confusion dans sa pensée que parfois, au début, elle venait à l'imposition des mains, parce que en venant à l'imposition des mains, elle prenait des forces pour aller trafiquer avec le diable. Il y a un peu le truc. Alors un jour, je lui ai dit, moi, c'est fini, je ne prie plus pour vous. Tant que vous abandonnez pas vos péchés, je ne prierai plus pour vous. Alors, elle n'a pas pris tout à fait bien au début, mais n'empêche que on doit dire la vérité. Il y a de la confusion, mes amis. Et je dirais que le diable, c'est le roi de la confusion. Les ténèbres, c'est ça, c'est pas clair. Les contours ne sont pas précis. On mélange les choses. Et c'est vrai dans le domaine religieux où parfois on mélange les choses de Dieu, l'idolâtrie. On fait confiance à des objets plutôt qu'au Seigneur. Et certains sont même en train de croire que peut-être leur signe astral va les protéger. Et la confusion! Et parfois, il y a même des gens qui se disent chrétiens, qui me disent « De quel signe tu es ?» Comme si ça avait une importance, de quel signe. Il vaut mieux s'occuper des signes du Seigneur. Et il y a des confusions comme ça. Le diable, c'est le roi de la confusion, parce que quand il nous emmène dans la confusion, alors il a un pouvoir, il prend une autorité. Il a une force qui peut se manifester contre nous. Hostilité religieuse, on le voit. C'est curieux, hein ? Jésus a été victime de l'hostilité des religieux, de l'incrédulité des religieux. Et ça a été un combat terrible. Et puis, je vais parler de l'hostilité familiale, parce que si vous regardez dans le passage parallèle de Marc, par exemple, juste avant de commencer cette histoire, l'évangile de Marc, au chapitre 3, verset 21, dit « Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens, il est fou ». Même la propre famille de Jésus, et moi je crois que la famille de Jésus aimait Jésus. Je pense que Marie aimait Jésus. Je pense que les frères de Jésus aimaient Jésus. Et que quelque part, quand ils ont fait et qu'ils ont voulu faire cette démarche, ils l'ont fait pour protéger Jésus contre lui-même. Il est fou. Il dit des choses, il fait des choses, mais dans quoi il s'embarque ? Il est fou ! Et il voulait l'arrêter, il voulait se saisir de lui. C'est curieux, hein ? Et on voit que, en fin de compte, les choses naturelles, même les bonnes choses naturelles, finissent parfois par se retourner contre les choses spirituelles de Dieu. Parce que la Bible dit que ce qui est naturel dans l'homme, ce que Paul appellera la chair, qui n'est pas la viande, hein, rien à voir. La chair, c'est-à-dire l'être naturel. Eh bien, il a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il y a continuellement une dualité, il y a continuellement un conflit entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Et là, on voit que même les parents de Jésus ne sont pas au clair par rapport à ce que Jésus est venu faire. Et pourtant, ils ont vécu des choses formidables. Marie a été avertie, ils ont dans la famille vécu des choses tout à fait extraordinaires. Mais ce n'est pas clair. Comme quoi, mes amis, on a vraiment besoin de se mettre continuellement au clair par rapport à ce qu'est Jésus, ce qu'il est venu faire et ce qu'il nous a apporté. Parce qu'on peut tellement facilement dériver. C'est un monde hostile, même dans un contexte qui est aimant, qui est plutôt sympathique, et qui, quelque part, part de bons sentiments. On veut l'arrêter parce qu'il sait plus ce qu'il fait. Et ce texte que nous avons lu tout à l'heure, dans l'évangile de Marc, se termine comme ça. « Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, « Voici ta mère, tes frères, sont dehors, te demandent. » Il répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là, c'est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est fort, hein ? Jésus ne s'est pas laissé impressionner, manipuler. Bien au contraire, il a résisté. Là aussi, il y avait un rapport de force. Et on peut bénir Dieu de ce que le Seigneur a gagné sur tous les tableaux, hein, et qu'il ne s'est pas laissé faire. Alors à nous de ne pas non plus nous laisser faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire la guerre à votre famille, hein, au contraire. Mais il faut faire la guerre surtout à votre propre chair pour faire la volonté de Dieu. Parce que c'est ça qui est important. Et vous avez remarqué que dans Marc, comme dans Luc, ça se termine pareil, avec une référence à faire la volonté de Dieu, à s'occuper de ce que Dieu dit. Parce que c'est ça qui est le plus important. Que le Seigneur nous aide. Merci Seigneur de nous parler de ces choses qui nous étonnent, surprennent, peut-être font peur. Mais tu nous en parles parce que tu as donné le pouvoir de les vaincre. Tu nous as donné le pouvoir de gagner, de délivrer ceux qui sont esclaves de toutes sortes de choses mauvaises. Seigneur, nous voulons te remercier d'être venu détruire les ténèbres, de ne plus nous laisser dans ce monde terrible où le diable domine et finit par rendre les gens malheureux. Seigneur, merci de cette grâce que tu nous as donnée, de ce changement de royaume. Nous sommes passés du royaume des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à celui de Dieu. Et vraiment, Seigneur, nous nous réjouissons ce matin parce que nous t'appartenons, parce que tu es dans notre vie, parce que tu es plus fort que celui qui a cherché à nous détruire, parce que tu es venu, Seigneur, pour nous rendre libres, et que si quelqu'un est là au milieu de nous, victime de ces manigances et victime de toutes ces choses mauvaises, toi, tu as vaincu, et nous pouvons affirmer ce matin, en toute sincérité et en toute vérité, que tu es plus fort, que tu as gagné, et que ce matin, on peut être libre. On peut être délivré. On n'a pas à vivre dans la peur, dans la crainte. On n'a pas à rechercher et à redouter ce qui peut nous faire du mal. On n'a pas à être superstitieux. On n'a pas à penser que le malheur va frapper à notre porte, mais que tu es celui qui est le plus fort, qui est dans notre vie, qui a pris, qui s'est installé dans notre cœur, dont tu as fait de nous ta maison, le temple de Dieu. Quelle grâce, Seigneur! Ce matin, nous voulons te dire combien nous te sommes reconnaissants, combien nous réalisons la chance que nous avons de te connaître, combien nous réalisons le bonheur de te connaître. Ah, gloire à Dieu! Alors, Seigneur, je voudrais vraiment que ceux qui sont encore peut-être tiraillés, ceux qui sont encore entre deux, ceux qui sont peut-être perturbés par toutes ces mauvaises choses, puissent te connaître ce matin et connaître la délivrance que le Seigneur peut donner. Gloire à Dieu. Oh, nous croyons dans la délivrance de Jésus. Nous croyons que Jésus a vaincu le diable et ses démons. Que quiconque est tourmenté par un mauvais esprit peut être libéré, délivré par la grâce du Seigneur. Ah, nous nous réjouissons, Seigneur, de ton amour et de ta bonté. Donne la paix. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen.